Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Une personne sur quatre dans le monde sera à un moment donné de sa vie atteinte d'une maladie mentale. Pourtant, ces troubles restent globalement méconnus et banalisés. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où la maladie mentale est très peu diagnostiquée. Alors, comment se passe la prise en charge des maladies mentales en Côte d'Ivoire? Quelles sont les attentes et les besoins? Dans votre magazine de santé de ce jour, il sera question de santé mentale avec le professeur Kwame Dar, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Professeur, comment comprendre la maladie mentale?
La maladie mentale, c'est d'abord un problème de santé. Dans les problèmes de santé, il y a deux grands groupes. Il y a des problèmes de santé physique. Quelqu'un souffre de diabète, souffre d'hypertension, souffre de paludisme, de tuberculose, ou bien d'une infection à VIH, ou bien d'une infection respiratoire. Ça, c'est ce que tous les citoyens connaissent, ces problèmes de santé physique ou maladie physique. Et l'autre groupe, qui est moins connu et qui peut paraître un peu mystérieux, c'est les problèmes de santé mentale. Et donc, les maladies mentales sont classées dans le groupe des problèmes de santé mentale. Ces problèmes de santé mentale ont des manifestations un peu spécifiques. Pour bien comprendre, c'est de faire un peu un lien entre c'est quoi la santé mentale et c'est quoi la maladie mentale. C'est très important de clarifier cela. Très souvent, quand on dit santé mentale, ils voient en même temps maladie mentale, en même temps folie. Or, comme l'OMS définit la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel un individu se trouve, il fait face aux événements de la vie et c'est la condition justement pour la personne de pouvoir participer à sa vie personnelle ou à la vie en communauté. Mais en même temps, la santé mentale va se traduire par quatre éléments majeurs. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les pensées, les croyances. Le deuxième élément, c'est la composante qu'on peut dire émotionnelle, c'est ce que la personne ressent. Et le troisième niveau qui permet d'apprécier la santé mentale, donc le bien-être, c'est comment le corps va se sentir physiquement, corporellement. Et la dernière composante, qui est la quatrième composante, c'est la composante du comportement que tout le monde voit. Ça veut dire le fait de faire beaucoup d'activités, ces quatre éléments rentrent dans ce qu'on appelle le bien-être psychologique. Et donc, lorsque pour des questions X ou Y, on est perturbé dans notre santé mentale, c'est ces quatre dimensions qui sont perturbées. Et la maladie, c'est un peu comme la perte de cet état de bien-être mental. Et donc, en fonction du type de maladie mentale, on va avoir des différentes manifestations. Il n'y a pas qu'une seule maladie mentale. Il y a plusieurs maladies mentales. Il y a des maladies moins sévères, il y a d'autres qui sont plus sévères, il y a d'autres qui vont durer quelques temps, il y a d'autres qui vont durer toute la vie.
Alors, qui sont ceux qui sont susceptibles de souffrir de ce type de maladie?
Tout le monde peut être susceptible d'être fragilisé dans sa santé mentale et peut tomber malade. Mais il y a des facteurs de risque qui peuvent exposer à la maladie mentale. En fonction de l'âge, en fonction du sexe, on se rend compte qu'il y a certaines maladies qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, qui sont plus fréquentes chez les enfants que chez les adultes, qui sont plus fréquentes chez les personnes adultes d'âge mûr que chez les adultes jeunes. Il y a des maladies qui sont en fonction aussi du milieu dans lequel on travaille et où on vit. Et donc, au niveau du programme national de santé mentale, on expérimente justement le dispositif de délégation de tâches et de faire de telle sorte que dans tous les centres de santé en Côte d'Ivoire, que ce soit dans des villages, en milieu périurbain comme en milieu urbain, la sage-femme soit en capacité de pouvoir repérer précocement des problèmes de santé mentale, de faire les premiers soins et secondairement d'orienter vers des spécialistes.
Il apparaît, selon certains chercheurs qui ont eu à faire une cartographie des centres de santé mentale pour le traitement, ce sont plus les centres traditionnels qui sont nombreux en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela est vrai?
Oui, effectivement. Ça fait 2 ans que j'ai participé à coordonner cette étude. En Côte d'Ivoire, on a 35 structures. Mais en face, on a au moins 541 structures non conventionnelles qui ont le fonctionnement d'hôpitaux psychiatriques à ciel ouvert et qui sont gérées soit par ce qu'on appelle des responsables de structures non conventionnelles qui reçoivent pratiquement annuellement entre 50 et 200 malades mentaux. Quand on voit ce déséquilibre, on s'est posé deux questions. La première question, qu'est-ce qui explique cela? Alors, première des choses, les gens, les populations, les familles, pour eux, les hôpitaux, les centres de santé sont là pour régler les problèmes de santé physique. Tout ce qui est de l'ordre, entre guillemets, moral ou comportement bizarre, ils n'attribuent pas ça à des problèmes de santé, encore moins à des problèmes de santé mentale. Et donc, pour eux, le premier recours, ce sont ce qu'on appelle de façon générique les camps de prière. Parce que la question des maladies mentales, il y a toujours une coloration culturelle, religieuse, mystique, qui est encore fortement enracinée parce que la croyance sous-tend les comportements de santé et puis les manifestations. Quelqu'un dit, j'ai l'impression que les gens sont contre moi. Pour eux, c'est le djinn ou bien c'est le démon. Donc, il faut faire des exorcismes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont recours en première intention et peut-être la dernière intention à ces structures.
Alors, quels sont les besoins, vous, au niveau de votre programme, de façon générale, pour réussir cette prise en charge?
Les besoins sont nombreux. L'un des défis qui nous est posé, c'est de pouvoir sensibiliser les populations, les autorités, les agents de santé, pour que tout le monde comprenne que de la même manière qu'il existe des problèmes de santé physique, il existe aussi également des problèmes de santé mentale. Et que les problèmes de santé mentale sont des problèmes de santé. Souvent, ce n'est pas évident. Pourquoi je le dis? Parce que très souvent, dans la planification des projets, des organisations, de l'État, on met de côté la santé mentale. Pourtant, c'est le deuxième pilier de tout système de santé. On investit plus dans le VIH, dans la tuberculose, dans le diabète, dans le paludisme, et on occulte le deuxième pilier de notre système de santé, qui est comment s'occuper de la santé mentale des populations. Or, une société, pour qu'elle puisse se développer, il faut qu'elle soit en bonne santé. Le fait de ne pas prendre en compte la composante santé mentale dans tous nos systèmes, dans nos sociétés, dans nos administrations, à l'éducation, à l'emploi, à la protection, dans les systèmes communautaires, on voit les conséquences désastreuses de la non-prise en compte, comme les cas, par exemple, de suicide, tentative de suicide, ou bien de décrochage scolaire, des situations de migration irrégulière, des situations de violence en milieu scolaire ou universitaire, un peu maladroitement la question de l'incivisme routier, mais il y a un lien direct entre la santé mentale des chauffeurs et les accidents de la route. Donc, un chauffeur qui n'est pas bien dans sa tête, il va exposer la vie des populations et ça serait un drame social, c'est un drame familial, un drame économique. Le changement vient lorsque les populations comprennent. Et donc, le premier moyen stratégique pour nous, c'est de communiquer pour dédramatiser. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte stigmatisation autour des personnes qui sont perturbées dans leur santé mentale. On les cache, on a honte. On les stigmatise. On perçoit encore les problèmes de santé mentale comme des problèmes moraux, comme des problèmes culturels, comme des problèmes mystiques, comme des problèmes religieux. Et même on culpabilise la personne qui souffre de problèmes de santé mentale, on lui dit c'est sa faute. Pourtant, quand quelqu'un fait un paludisme, quand quelqu'un fait un diabète ou une hypertension, on ne lui dit pas que c'est sa faute. Il y a tout un changement, il y a une culture à adopter dans nos populations pour redresser les choses et pour qu'on change de regard et on ait de bonnes attitudes. Et pour nous, lorsque quelqu'un a un problème de santé mentale, il faut qu'il aille dans le centre de santé le plus proche parce que le centre de santé a vocation et a le devoir d'accueillir toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. Le deuxième défi majeur, c'est justement de renforcer la formation des agents de santé. C'est de renforcer la formation des agents communautaires, des travailleurs sociaux que nous on considère comme des premiers acteurs de première ligne. Ils peuvent assurer le premier soutien psychologique des femmes, des enfants, des élèves, des étudiants, de la communauté. Et pour cela, il faut un engagement citoyen, un engagement des collectivités décentralisées. Financer la santé mentale, c'est anticiper et sécuriser l'économie. Et donc, c'est une affaire de tout le monde. Investir dans la santé mentale, ça permet la productivité, la durabilité de nos investissements.
Quels sont les principaux motifs de consultation aujourd'hui?
Dans les données des services, on peut dire trois grands groupes de problèmes de santé mentale qui se posent. Le premier problème est en rapport avec ce qu'on appelle la dépression et que nous, on a tendance à dire c'est la maladie du désespoir, de la grande tristesse, de la perte du désir de vivre et c'est malheureusement sous-diagnostiqué. Ce n'est pas reconnu comme un problème de santé publique. Ce n'est pas reconnu par la population, même souvent par des agents de santé, comme un problème de santé. Pour eux, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est découragé de la vie, on dit tout le monde a des problèmes. Et donc, on laisse les personnes en souffrance, sans assistance, sans soins, sans prise en charge. Ce qu'on craint dans la dépression, c'est le suicide. C'est la complication la plus grave. Et on pensait qu'en Afrique, les gens ne souffraient pas de suicide. Or, nos pays africains sont dans des mouvements de mutation, de transformation sociale qui font qu'à un certain moment, on devient de plus en plus fragile au niveau de notre santé physique et surtout au niveau de notre santé mentale. La dépression est un tueur silencieux et on a le constat amer ces jours-ci. Les problèmes de santé doivent être gérés dans les centres de santé avec les infirmiers, avec les sages-femmes, avec les médecins généralistes, avec les spécialistes. Donc ce n'est pas une histoire de sorcellerie, de camp de prière, d'aller prier et tout va rentrer. Je profite pour inviter vraiment tous les responsables religieux pour avoir la bonne attitude, pour être des relais communautaires, pour donner la bonne information parce qu'ils reçoivent beaucoup de personnes en souffrance psychologique. Et malheureusement, ils donnent une interprétation religieuse et ça complique l'assistance aux populations. Il va de la responsabilité de nos leaders de s'engager dans une attitude respectueuse et sécurisante de la vie et de la santé des populations. Donc, quelqu'un qui ne dort pas bien depuis une semaine, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui normalement il est journaliste, animateur, et depuis un certain moment il se néglige, ce sont des indices de quelqu'un qui est en souffrance psychologique, ce sont les indices de quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Il ne s'agit pas d'écrire des demandes d'explication, il s'agit de lui dire va voir ton médecin traitant et le médecin traitant saura quoi faire. Lorsque on est au village et qu'on découvre qu'il y a une femme, après l'accouchement, elle passe tout son temps à pleurer, elle n'a pas la force de s'occuper de son enfant. Elle dit vraiment, moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cet enfant, que ce n'est pas mon enfant. Elle est en train de vous dire qu'elle a un problème de santé mentale. Et elle a besoin rapidement que l'entourage puisse l'accompagner dans le centre de santé le plus proche pour qu'on puisse poser un diagnostic sur son problème de santé mentale et qu'elle bénéficie de soins. Si on ne le fait pas, elle peut étouffer son enfant ou bien après se donner elle-même la mort. C'est un enjeu de cohésion sociale parce que tout décès par suicide a une conséquence sur la cohésion, sur l'équilibre, sur la stabilité, sur l'épanouissement de la communauté et de la famille.
Alors professeur, en dehors de l'hôpital, comment peut-on savoir qu'une personne est atteinte de troubles ou de maladies mentales ou un problème de santé mentale?
Je donne 4 éléments qui permettent d'orienter. Très souvent, quand on est avec des personnes, le premier contact, on dit « Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que tu as bien dormi? Et les enfants? Et au travail? Comment tu te sens dans ton corps ?» En fait, on est en train de s'interroger sur sa santé mentale, sans s'en rendre compte. Et donc, on est habitué déjà à voir des petits signes pour dire « Ah, mon voisin, depuis un certain moment, je sens qu'il y a quelque chose. » Et donc, si vous constatez que dans son comportement, quelque chose a changé, ne s'agit pas de dire « C'est lui-même qui a cessé son problème. » Non, c'est de dire « Il est en souffrance. » Si c'est un élève, on voit depuis un certain moment, premier trimestre, il a des bonnes notes. Deuxième trimestre, on voit ses notes diminuer. Il ne s'agit pas de lui dire qu'il est paresseux, qu'il n'aime pas l'école. On n'a pas besoin de morale. On a besoin de dire, en fait, il a un problème de santé mentale. Il a besoin que l'éducateur puisse l'écouter pour comprendre ce qu'il vit. Ou bien encore, c'est un travailleur qui est bien jovial. Chaque jour, il vient, il anime ses collègues. Depuis un certain moment, on voit qu'il est dans son coin. Il ne participe plus aux réunions. Pour faire le travail, c'est lent. Il coupe tout contact et il commence à boire. Il commence à fumer. Il se plonge dans le travail. Il se coupe de tout le monde. Ce sont des signes de quelqu'un qui est en souffrance. Il ne fait pas exprès. Ce sont des signes d'alerte. Il est en train de vous dire qu'il est en souffrance. Comme on a tendance à dire tout le monde a des problèmes. Et on dit que quelqu'un qui veut mourir ne dit pas qu'il veut mourir. Or, il est en train de vous dire qu'il est en souffrance et qu'il a besoin d'aide. C'est vraiment une responsabilité pour chacun d'entre nous d'être des sentinelles. On ne vous demande pas de vous comporter en psychologue, mais on vous demande d'être des lanceurs d'alerte en contactant le centre d'appel du ministère de la Santé. À partir de ce moment, le dispositif est enclenché pour qu'on organise sa prise en charge.
Une séance de consultation d'une personne atteinte de santé mentale, comment est-ce que cela se passe?
Il y a 2 niveaux. Il y a le côté médical et puis il y a le côté prise en charge psychologique. Un infirmier qui reçoit quelqu'un dans un village, il va procéder de la même manière comme les autres. Pourquoi je dis cela? Parce que, en fait, rien ne dit que les signes qu'il présente sont forcément en lien avec un problème de santé mentale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait un diabète, ce diabète peut se compliquer d'un problème de santé mentale. Quelqu'un qui a une infection VIH, dans les manifestations, souvent au niveau cérébral, il peut avoir des manifestations psychiatriques. Donc, dans un premier temps, on doit l'examiner comme tout malade. Prendre les constances, faire des examens de sang, pour être sûr qu'il n'y a pas un problème organique qui est derrière. Quand on a éliminé rapidement cela, on interroge la personne pour savoir depuis quand les signes ont commencé, ça se manifeste comment? Est-ce que la personne vient d'elle-même? Parce qu'il y a deux problèmes de maladie. Il y a certaines maladies où la personne ne se reconnaît pas malade. Mais ce sont les signes de sa maladie. Très souvent, c'est la famille qui force. Ou bien on va le chercher à domicile de force pour l'amener à l'hôpital. Donc ça, c'est le groupe de ce qu'on appelle les maladies, la psychose, ou bien une forme de schizophrénie. C'est des termes un peu scientifiques. La personne ne se rend pas compte qu'elle est malade. Donc la personne va dire des choses. La personne peut avoir l'impression que Dieu lui parle. La personne peut avoir l'impression d'entendre des voix. La personne peut avoir tendance à dire qu'on lui dit de faire des choses. Mais ce sont des signes d'un autre type de maladie mentale. Et donc, c'est tous ces éléments-là que le médecin collecte. Et donc, il y a le traitement médicamenteux. Et il verra en fonction de la maladie. Il y a des maladies qui sont chroniques. Donc, le traitement sera un peu sur longue durée. Et puis, il y a des maladies qui sont aiguës. C'est peut-être sur 8 mois, bien 1 an. Mais en plus du traitement médicamenteux, il faut un traitement psychologique. C'est ça qui fait la particularité des problèmes de santé mentale et de pouvoir travailler aussi avec la famille, travailler avec l'entourage, le secteur professionnel, tout ça, pour qu'on puisse l'accompagner dans un rétablissement. C'est-à-dire, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le processus. Mais ce qu'on rencontre le plus, qui est de l'ordre de pratiquement 60%, 70% des situations, ce sont les situations de souffrance psychologique, souvent dans des familles, dans des quartiers. Ça peut être une jeune fille qui a vécu une déception amoureuse, elle est en classe de seconde, première, qui peut souffrir entre guillemets de goumet. On va dire c'est bien fait pour toi. Quand on te dit d'aller étudier, on moralise la personne. Pourtant, la personne en souffrance, et si cette souffrance n'est pas bien prise en charge, le risque c'est que ça va avoir un impact sur ses résultats scolaires. Donc, ce qu'on attend des familles, c'est pas le côté moralisateur qui nous intéresse. C'est de dire, ma fille est en souffrance psychologique. Elle a besoin
d'un accompagnement.
Et donc, au niveau du programme, on a terminé une réunion avec tous les centres sociaux des différents ministères de protection sociale et puis femmes, familles, enfants, justement pour qu'ils soient des premiers relais, les premiers intervenants en soutien psychologique vraiment professionnel et à moindre coût. Dans les centres sociaux, les services sont gratuits. C'est déjà une opportunité d'avoir ces ressources humaines qui sont payées par l'État, qu'on va renforcer leurs compétences pour pouvoir assurer la première ligne et permettre d'éviter justement qu'on ait ces situations désastreuses dans nos villes, dans nos quartiers, qui créent un peu le désarroi social.
On entend souvent dire qu'en plus d'une stigmatisation au sein des familles, les personnes atteintes de ce genre de troubles le sont aussi dans les hôpitaux. Est-ce que cela est vrai?
Oui, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels de santé, leur cerveau est calibré sur les problèmes de santé physique. Ils ont du mal à accueillir dans les centres de santé des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale parce qu'ils se sentent, première des choses, soit incompétents, deuxième des choses, ils se disent c'est pas là qu'on doit soigner, c'est à Benzerville, c'est ailleurs, sauf dans le centre de santé. Et deuxième chose, ils se disent que les malades mentaux sont violents, ce sont des maladies spirituelles. Malheureusement, il y a des professionnels de santé qui ont ces croyances. Ce n'est pas spécifique aux populations. Donc, ce sont des barrières à l'accès aux services de santé pour tous. C'est justement un appel aussi qu'on fait à nos collègues pour leur dire qu'ils ont le devoir d'accueillir tous les malades sans stigmatisation.
Vous avez parlé de Benzerville, on entend souvent dire que tu finiras à Benzerville. Alors que savoir justement de ce centre? Parce qu'on sait aujourd'hui que Benzerville est rentré dans le langage courant des Ivoiriens.
Oui. Justement, quand on te dit santé mentale, il dit je ne suis pas fou. Au moins, si tu fais ça, on va t'amener à Benzerville. Benzerville, historiquement, c'est le premier hôpital de référence nationale en matière de prise en charge psychiatrique. Et justement, le ministère de la Santé est dans un vaste programme de réforme hospitalière et Benzerville va connaître un nouveau visage parce que l'environnement de soins doit être amélioré et doit permettre de créer un bon cadre rassurant. De telle sorte qu'on dit, viens à Benzerville, il faut que la personne sente qu'il vient d'un cadre pour se reposer. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il vient dans un milieu asilé. L'État a pris ses responsabilités pour dire, oui, effectivement, on dit que la Côte d'Ivoire fait partie des pays où le taux de suicide, oui, c'est vrai, mais on prend nos responsabilités parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres. En même temps, on est en train de mettre des réponses. Et ça va être un bon baromètre pour nous de voir dans 3 ans, 4 ans, comment on arrive à faire infléchir la tendance.
Merci infiniment, professeur.
Radio de la paix.
Si la psychiatrie et la pédopsychiatrie en Côte d'Ivoire cherchent toujours leur marque, l'espoir est grand. Face à des centres de santé qui accueillent une dizaine et une centaine de personnes chacun, seules 35 structures conventionnelles de soins psychiatriques existent, autant d'éléments qu'il est supposé que les besoins des populations en soins de santé mentale ont considérablement augmenté. On en parlait avec le professeur Kwame Dar, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Fin de Santé pour tous, merci et à bientôt.